Bien, merci beaucoup. Alors, écoutez, Daniel, si vous permettez, je vais faire une remarque, vous poser une question à chacun d'entre vous. Est-ce que il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de réagir, puis des choses sur lesquelles j'ai quand même besoin d'un peu plus d'informations. Alors, je vais prendre l'ordre dans lequel vous êtes passé. Alors, merci de faire des réponses très courtes, hein, parce que les questions sont très concrètes. Alors, madame du jardin, si la chambre d'un patient lui est reconnue comme un espace privé, d'accord, qu'est-ce qu'il en est de sa possibilité d'y avoir des relations sexuelles?
C'est une question, je dirais, d'actualité en droit. Il y a beaucoup de juristes qui écrivent actuellement. Ah oui, je vais respecter le temps, ce serait une marche. Donc, qu'en est-il? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, dans les situations à proprement parler, interdire, parce que ça serait réduire une mesure de liberté individuelle sur le plan sentimental de la vie sexuelle. On ne peut pas non plus, dans les règlements, inciter, évidemment, à contrarier dans d'autres situations. On doit se poser la question, puisqu'on ne peut pas réduire un individu à la seule prise en charge dans le soin. La question est d'autant plus vraie, surtout actuellement pour le médico-social. Voilà, c'est plus le présent pour le médico-social avec la situation des aidants sexuels qu'on peut trouver dans certains pays.
D'accord. Donc, si une infirmière ou une aide-soignante rentre dans une chambre au moment où quelqu'un est hospitalisé à une relation sexuelle, c'est à cette personne qui rentre de s'excuser. D'accord, on va regarder la question comme ça. Alors, Madame Bourgeois et Madame Kochner. Alors, j'ai trois petites questions, mais sont très courtes. Ma première question, est-ce que les questionnaires ont été remplis par les patients tout seuls, en prenant tout leur temps, ou est-ce que quelqu'un est allé les voir et les a remplis avec eux?
On a prévu toutes les modalités possibles.
D'accord. Ce n'est pas les mêmes réponses. Oui. C'est pas forcément les mêmes réponses quand on a devant soi quelqu'un qui nous regarde et qui attend la question, parce que à ce moment-là, le questionnaire n'est plus anonyme.
On leur a laissé les questionnaires avec plusieurs jours pour pouvoir nous les retourner. Et pour ceux qui souhaitaient un accompagnement, plutôt d'ailleurs pour bien comprendre les questions, d'accord, il y avait un accompagnement.
Voilà, j'ai été étonné du fait que vous ayez toujours 100%. Et ça, quand on laisse les questionnaires, on l'a jamais. Donc je me suis dit, il y a eu une aide. D'accord. Alors, ma deuxième question, vous évoquez pas les ordinateurs portables, l'accès à Internet, c'était pas dans le questionnaire. Pourtant, ça, c'est maintenant une question d'actualité. Hein. Tous les gens qui ont leur portable dans le train, dans les jardins publics, bah, ils vont l'avoir à l'hôpital.
On prévoit des bandes Wi-Fi sur de nouveaux locaux.
D'accord, très bien. Et puis, ma troisième question, vous avez parlé de fermer les chambres. Mais fermer les chambres, il y a trois possibilités. Soit on peut les fermer du dedans, soit on peut les fermer du dehors, soit on peut les fermer du dedans et du dehors. Hein. Donc là, c'est des choix qui n'ont pas la même portée. Voilà. Voilà, non, mais je veux dire ça. Donc, quand vous dites est-ce que vous souhaitez que la chambre soit fermée, si vous faites une nouvelle enquête, à mon avis, il faut bien distinguer. Fermer du dedans, donc c'est un espace privé. Hein. Fermer du dehors, c'est un espace privé aussi, mais c'est quand on n'est pas là, protéger ses effets personnels. Et fermer du dedans et du dehors, c'est les deux. Enfin, donc, je pense qu'il faut bien avoir ça à l'esprit parce qu'on n'a pas la même portée. Chez soi, on ferme du dedans et du dehors. Dans les chambres d'hôtel, on ferme du dedans et du devant. Mais l'enfant peut fermer, sa clé du dedans et du devant. Enfin voilà, en tout cas, c'est pas mal. Alors, pour M. Valette, alors oui, Dr. Valette, c'est très bien, j'ai retrouvé mes expériences hospitalières, à quelque chose en plus quand même que j'ai vécu, c'est l'extraordinaire impudence qu'ont les médecins, les infirmiers, à raconter leurs histoires personnelles entre eux, en présence des malades. Comme si les malades n'existaient pas, comme si c'était des meubles, ou comme si c'était des enfants qui ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer autour d'eux. Ça m'a toujours frappé. Voilà, donc là vous ne l'avez pas évoqué, donc moi je vous assure, c'est un élément de mon expérience très marquant. J'ai l'impression d'être pas seulement réduit à un état d'objet, mais un objet transparent.
Voilà. Oui, c'est. Vous prenez le micro, vous avez un micro.
Oui, effectivement. Ça, ce sont des choses dont on se rend compte parfois. Cela étant, quelquefois, les patients pensent qu'on parle d'eux et ils en sont très, très, très flattés. Ils sont très flattés d'être le centre d'intérêt de plusieurs personnes qui discutent sur...
Quand on entend les conversations, on entend autre chose. Je voulais ajouter ça parce que si vous voulez, c'est plus seulement l'intimité du patient qui est respectée ou pas, c'est le patient qui est confronté à l'intimité des soignants d'une manière qui lui est imposée, qu'il n'a pas choisi. Or ça aussi, ça fait partie de l'intimité. L'intimité, c'est pour protéger mon intimité et me protéger de l'intimité d'autrui. Ça fonctionne dans les deux sens. Et puis, pour M. Desuisses, alors, c'est très bien, je suis bien d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un droit à communiquer, le droit à communiquer n'a pas à être fixé, c'est les limites qui doivent être fixées. On n'a pas à dire, chacun peut utiliser son portable de telle heure à telle heure à tel endroit. Non, il est interdit d'utiliser son portable de telle heure à telle heure à tel endroit, pour telle raison. C'est les limites qui sont justifiées, c'est pas l'autorisation qui n'a pas à l'être. J'ai tout à fait raison. Et puis, autre chose, donc, qui rejoint ce que vous disiez, l'importance des contrats. C'est vrai qu'il faudrait vraiment établir des contrats. Moi, j'ai longtemps travaillé dans un externat médico-éducatif, on a fait un contrat d'admission qui prévoyait l'utilisation du portable, en justifiant, qui prévoyait un tas de choses, d'ailleurs, aussi au niveau de, maintenant, c'est des signes extérieurs de religion et tout ça. Donc, on l'avait contractualisé, quoi. Les gens qui arrivaient, les parents signaient, et l'enfant signait. En fait, le contrat. Le contrat fait loi quand la loi n'est pas fixée par la collectivité. Voilà. Alors maintenant, je vais dire quelques mots aussi de plus généraux sur ce que vous avez évoqué. Alors, vous avez évoqué au début la question des frontières. C'est vrai, c'est très important. Question des frontières, question des limites. Alors pourquoi? Parce que nous avons, je crois que l'être humain a absolument besoin de trouver ses frontières et ses limites dans son environnement, parce qu'il a besoin qu'elles existent à l'intérieur de lui-même. C'est vrai que la distinction entre conscient, préconscient, inconscient, elle est appuyée, elle est étayée aussi sur des espaces qui sont étanches, partiellement étanches les uns aux autres. On vit dans des appartements, il y a des cloisons et des portes. Ça a été un grand progrès quand même. Certainement, ça a bouleversé le fonctionnement psychique. Je voudrais dire aussi quelques mots de ce qu'il y avait dans la distinction intime privé-public avant les technologies numériques et ce qui existe maintenant avec les technologies numériques. Alors avant les technologies numériques, on reconnaissait qu'il y avait une sphère intime, une sphère privée, une sphère publique, en général plutôt organisée à partir d'espaces, des espaces intimes comme les WC, la salle de bain, des espaces publics comme la rue, les cinémas, et puis entre les deux, des espaces privés, plutôt la vie de la famille. Donc on reconnaissait bien qu'il y avait espace intime, espace privé, espace public, et puis on reconnaissait bien que la frontière pouvait être poreuse. On n'a pas attendu pour la technologie pour reconnaître que la nudité n'avait pas la même, la nudité totale ou partielle n'avait pas le même statut au Moyen-Âge, à la Renaissance, etc. Alors qu'est-ce que les technologies numériques ont apporté? À mon avis, première chose, c'est que quand on montre son intimité en public, c'est plus forcément d'exhibitionnisme. Dans l'ancien modèle, quand on montrait son intimité en public, c'est tout de suite taxé d'exhibitionnisme. Et d'ailleurs, à mon avis, ça a été le grand quiproquo qui a été fait sur la première mission télé-réalité, vous savez, Love Story, au printemps 2001, parce que le fait que des jeunes montrent de leur intimité était tout de suite taxé d'exhibitionnisme. Alors, moi, j'ai beaucoup réagi à ce moment-là en disant non, c'est ce que j'appelle des désir d'exclimité, de montrer des parties de soi jusque-là gardées intimes, de façon à les faire valider, à faire reconnaître leur valeur. Et ça, c'est quelque chose qui avait toujours existé, mais qui n'était pas vraiment identifié, qui n'était pas visible dans la vie sociale. Et aujourd'hui, ça a explosé avec Internet. Énormément de gens racontent des parties de leur intimité, notamment des ados, des pré-ados sur Internet, pour se faire reconnaître, pour les faire valider. Et du coup, il y a quelque chose qui va être très nouveau du fait de cette manifestation du désir d'extimité, ça va être le fait qu'une chose peut être à la fois publique et intime. Ça, c'est très étonnant, mais c'est vraiment une conséquence des technologies numériques. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui fait des conférences, et un jour, il fait une conférence sur les blogs d'adolescents. Et il y a une fille qui a un blog, elle en a plusieurs probablement, mais sa fille lui a montré un blog, ça peut lui montrer trop le blog pour mes parents, donc sa fille lui a montré un blog, et le père dit, j'ai une conférence à faire sur les blogs, est-ce que tu acceptes que je prenne la photo que tu as mise sur la page de garde de ton blog? Et l'adolescent dit non, je ne veux pas. Le père lui dit, mais pourquoi tu ne veux pas? Dis-moi pourquoi. La fille dit, mais je ne veux pas parce que c'est intime. Alors le père lui dit, mais c'est pas intime puisque c'est sur ton blog, tout le monde peut le voir, c'est public. Et la fille a répondu, c'est public pour tout le monde, mais c'est intime pour toi. Et moi je trouve qu'elle avait raison. On a beaucoup discuté de ça, je trouve qu'elle avait parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on pouvait décider que certaines choses sont publiques pour un certain nombre de gens, mais qu'elles sont intimes pour d'autres. Or ça, Avant les technologies numériques, c'était impossible, puisqu'on franchissait les frontières successives. On passait de quelque chose qui était intime à quelque chose qui devenait privé, puis privé qui devenait public pour un espace restreint, puis un espace de plus en plus large. C'était un chemin obligé, c'était un parcours obligé de l'intime au public large, en passant par le privé, le public étroit, le public de plus en plus large. Donc, une deuxième nouveauté. Et puis, une troisième nouveauté, c'est que, vous savez, dans la distinction intime-privé-public, le mot intime, en fait, désignait deux choses qu'on arrive à mieux distinguer maintenant. Quand on disait intime, on voulait dire, on pouvait rajouter, d'ailleurs des fois, intime, c'est à la fois ce qu'on ne partage avec personne parce qu'on ignore soi-même, donc des choses même qu'on ignore de soi sur soi-même, et puis, d'un autre côté, ce qu'on choisit de partager avec une personne, à la rigueur d'eux, extrêmement privilégiée. Et donc, je trouve que les technologies numériques nous permettent de mieux préciser qu'il y a en effet ces deux composants dans ce qu'on appelle traditionnellement l'intimité, et ces deux composants, je crois qu'on est fondé, on les appelle l'intime et l'intimité. Et vous voyez, il y a deux mots, pourquoi s'en priver? Et donc, l'intime, c'est ce qu'on ne peut partager avec personne. On n'a même pas l'idée de le partager parce que même c'est des choses qu'on ignore sur soi. On verra tout à l'heure, dans les dossiers médicaux, ça peut s'y trouver. Ça peut être renvoyé au patient en pleine figure, c'est un problème de l'intimité. Et donc, l'intime, c'est des choses qu'on ignore de soi. Et l'intimité, c'est des choses qu'on connaît de soi et qu'on va donc proposer, poussé par le désir d'extimité, qu'on va donc pouvoir proposer à d'autres, hein, soit balancé dans l'espace public, soit à quelques proches, etc. Mais vous voyez, je crois qu'avec le désir d'extimité, on est bien obligé de considérer que dans ce qu'on appelait traditionnellement l'intimité, il y a cette dimension de l'intime et cette dimension de l'intimité. C'est très important parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus d'intimité, la privatisation de l'intime. Non, la privatisation de l'intimité. Pas de l'intime. Il y a un livre qui s'appelle La privation de l'intime, j'en parle. C'est plus joli phonétiquement la privation de l'intime que de l'intimité, mais il faut quand même établir une distinction, encore une fois, au sein de la tradition de l'intimité, entre l'intime et l'intimité. Sinon, on dit qu'il n'y a plus d'intimité. Oui, on en fait ce qu'on en veut, poussé par des désir d'extimité, mais il y a toujours de l'intime. Voilà. Alors, est-ce à dire que l'intimité n'est pas utile? Non, elle est indispensable. Il faut avoir de l'intimité pour qu'on soit en début d'estime de soi, vous l'avez dit. Un grand progrès que les placards puissent fermer à clé, etc. Des tables de mythe fermées à clé pour fermer sa porte à clé, ça me paraît très très important aussi. Pour les enfants aussi, pour construire l'estime de soi, il faut vraiment avoir droit à l'intimité. Et aujourd'hui, c'est malheureusement une tare dans laquelle, une erreur dans laquelle font beaucoup de parents, ils doivent surveiller leur enfant pour ne pas courir des risques sur Internet notamment, et du coup, l'enfant peut se sentir privé de son intimité et il a de la peine à construire une représentation positive de lui-même, du monde, etc. D'ailleurs, vous savez sans doute que les études ont montré que tous les parents qui surveillent leur enfant jeune obtiennent l'effet contraire de l'effet recherché, c'est l'effet que les enfants cachotent. Qui multiplient les précautions, qui multiplient les adresses mail, qui multiplient les mots de passe, etc. Et qui utilisent même, je crois ça récemment, dans une enquête, qui utilisent même les adresses mail et les mots de passe de leurs parents pour encore piéger plus la surveillance parentale. Voilà. Et puis, alors, une dernière remarque que je voulais faire, avant-dernière remarque, un aspect qu'on appelle tout évoqué, qui est le problème des dossiers. Il a été un tout petit peu évoqué, mais pas assez à mon avis. Je pense qu'il y a un énorme problème des dossiers par rapport à l'intimité. D'abord, des réunions de service. Enfin, en psychiatrie, des réunions de service, moi, ça me rendait des fois malade. Je me disais, mais si c'était moi dont on parlait comme ça, j'aurais envie de flinguer tous les gens qui en parlent. Car, malheureusement, il y a une tendance dans des réunions de service, très vite, alors au début de la réunion de service, c'est une représentation du monde. On va faire une mise en commun. Il y a quelqu'un, il y a l'assistance sociale de mairie, l'assistance sociale du secteur, les infirmiers qui font des visites à domicile, le psychiatre, éventuellement un représentant de l'ASE ou de l'AMO. Voilà. Et donc tous ces gens vont faire une mise en commun. Alors dans la mise en commun, le grand problème, c'est qu'ils vont dire au début des choses qui sont censées intéresser les collègues pour la conduite à tenir. Mais très vite, alors en général on mange, on boit un coup, même quand on ne boit pas, on s'excite un peu mutuellement, et alors très vite, les gens vont se mettre à raconter des choses qu'en effet ils ont pu comprendre, ou des confidences qu'on peut leur être dites, mais qui n'ont pas à être renvoyées dans une réunion dite de mise en commun, dans une espèce de perversion des réunions de mise en commun, qui deviennent trop souvent des lieux où chacun essaye de rivaliser avec les collègues pour montrer qu'il en sait un peu plus sur le patient. Ah oui, mais moi je le comprends bien, il m'a dit si je... Moi j'ai une bonne relation, il m'a dit ça. Ah, moi j'ai une relation encore meilleure, il m'a dit encore un peu plus, ainsi de suite. Ah, c'est très pervers. Donc il faudrait, moi je pense que dans ces réunions mises en commun, pour respecter l'intimité des patients, il y a toujours un observateur extérieur, c'est-à-dire quelqu'un d'une autre équipe, ou quelqu'un qu'on paye pour venir, ou l'institution paye pour venir dans ces réunions. Parce qu'il y a quelqu'un de l'extérieur, l'équipe s'automodère. Mais quand il n'y a personne de l'extérieur, elle ne s'automodère pas, malheureusement. Et alors, le problème donc, de ces mises en commun est le problème des dossiers. Là aussi, je vais vous donner un exemple. C'est une dame, bon, elle est enceinte, elle fait une fausse couche, à plusieurs époques où le sexe du fœtus est clairement différencié. L'équipe du service où elle a fait sa fausse couche lui dit, est-ce que vous voulez connaître le sexe du fœtus? Elle dit, non, je ne veux absolument pas le connaître. Pas de problème. Ensuite, bon, cette dame, elle sort de l'hôpital, elle continue sa vie, voilà, et puis deux ans après, elle fait un épisode dépressif, elle va voir son médecin, et mon médecin, elle raconte donc qu'elle est déprimée, et le médecin regarde son dossier, je pense qu'il l'a vu par télétransmission, et il dit à la dame, ah oui, en effet, vous êtes déprimée, mais je comprends, vous avez un événement très pénible, il y a deux ans, vous avez fait une fausse couche d'un bébé de sexe féminin, et à ce moment-là, la dame qui était venue un peu déprimée s'effondre complètement. Et elle ressort beaucoup plus déprimée que ce qu'elle n'est arrivée. C'est-à-dire que là, c'est une violation de l'intimité. Cette dame avait le droit de ne pas savoir le sexe de cet enfant dont elle avait fait une fausse couche. C'est son droit absolu. Et voilà qu'avec les meilleures intentions du monde, un médecin, bon, je ne pas qualificatif et juridique, mais un médecin qui lit, disons quand même, employeusement, bêtement, ce qu'il voit sur un ordinateur, fait de la gaffe terrible, qui peut vous fracasser le tout. Or ça aussi, c'est des questions d'intimité. Les dossiers aujourd'hui, ils sont trop bien tenus. Ils sont tellement bien tenus qu'il faudrait qu'ils soient accessibles à personne. Ou alors, il faut arriver à faire des dossiers qui respectent ce que les patients, non seulement ce que le corps médical connaît, mais ce de quoi les malades ont été informés. Et il ne faut pas seulement mettre les choses dont on a pu informer le malade, mais ne pas mettre les choses dont le malade n'a pas voulu être informé. Et c'est une révolution, j'en conviens, mais je veux dire, si on s'avance sur la voie du respect de la vie privée, il faudra bien envisager ça. Parce que sinon, si vous voulez, il faudrait prendre deux couleurs dans les dossiers pour voir ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit. Ça ne fonctionnera jamais. Voilà. Alors avant de discuter avec vous, je vais encore insister sur un dernier point. Finalement, je crois que beaucoup de choses autour de cette question de l'intimité, de respect de l'intimité des patients, ça tourne autour de deux idées fortes. Deux idées fortes qui existent toujours chez les soignants que nous sommes. D'un côté, le désir de réciprocité, d'entraide, voilà, donc des idées des choses très porteuses, en effet, c'est là qu'on peut se dire, mais si moi j'étais dans cette situation, comme le disait le docteur Valette tout à l'heure, si moi j'étais dans cette situation, avoir les fesses à l'air et que je me déplace, moi je vais m'asseoir, je n'ai pas forcément envie de rester assis, mais enfin, la blouse qu'on met sur le dos, ou plutôt sur le ventre, il n'y a pas d'autre choix. Donc se dire avec les patients, mais si j'étais dans sa situation, comment je réagirais? Désir donc d'établir une relation réciproque, mutuelle, et puis de l'autre côté, le désir de contrôle et d'emprise. Alors c'est vrai que le désir de contrôle et d'emprise, il a toujours été une profonde motivation de l'exercice médical. Contrôler la maladie et, un pas de plus, contrôler le malade. Et donc je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais avec les moyens de communication numérique, mais aussi les moyens de surveillance, on peut parler de caméras dans les couloirs, les hôpitaux. Je pense qu'il y a des hôpitaux devant les caméras dans les couloirs. Je ne me suis jamais préoccupé, mais il y en a dans les écoles. Ça m'étonnerait bien, il y en a dans certains nombres d'écoles, ça m'étonnerait bien qu'il n'y ait dans aucun internat pour enfants des déficients mentaux ou foyer d'accueil, ça m'étonnerait bien qu'il y en ait dans un hôpital. Bon, alors, actuellement, avec les moyens qu'on a de surveillance, de relais des informations, je crois qu'il va falloir se poser plus que jamais la question de savoir si on va privilégier le désir de réciprocité ou le désir d'emprise, en sachant que les deux sont vraiment très importants dans nos motivations de soins, mais qu'il va falloir consacrer peut-être plus de temps à s'interroger sur les conséquences de notre désir d'emprise. l'entreprise compte tenu des droits qui sont de plus en plus reconnus aux patients. Le retour de ce désir de réciprocité, moi je crois qu'il y a un mot qui est très porteur, hein, c'est le mot d'empathie, j'ai fait un livre sur l'empathie, l'empathie au cœur du jeu social, et dans ce mot d'empathie, je terminerai par là, il y a trois idées importantes qui peuvent, je crois, nous porter par rapport au désir de réciprocité. La première idée importante, c'est que dans l'empathie, on va reconnaître à l'autre la possibilité de se mettre éventuellement à notre place, au moins en pensée, mais ça va être surtout de reconnaître trois choses. Donc d'abord, c'est la possibilité de s'estimer lui-même comme on s'estime soi-même. En d'autres termes, est-ce que moi, à sa place, je ne serais pas dévalorisé, je ne souffrirais pas de défaut d'estime de moi-même, donc reconnaissance que l'autre a un narcissisme comme le mien et qu'il a le droit d'être respecté autant que moi. Deuxième dimension, l'autre a le droit d'aimer et d'être aimé comme je m'accorde ce droit à moi-même. D'où ma question sur la possibilité d'une activité sexuelle. Et troisième dimension, ben, l'autre est un sujet du droit au même titre que moi. C'est-à-dire pourquoi interdire le téléphone mobile aux élèves dans les écoles, pourquoi les interdire aux employés dans les usines, pourquoi les interdire aux malades dans les hôpitaux, si moi, je m'attribue ce droit. C'est-à-dire, on est sujet du droit, et on est sujet d'un droit qui doit être le même pour tout le monde. Sauf s'il y a contractualisation d'une limite, signée par le patient. On peut prévoir s'il ne signe pas, on va pas, mais il n'y a de limite au droit partagé que d'acceptation contractuelle. Voilà. Donc, j'attends encore du temps pour discuter, donc, merci de votre attention. En tout cas, moi, je suis content parce que vous avez vraiment soulevé des vraies questions et c'est possible.